France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les chansons de Boris Vian, deuxième partie. Boris Vian aurait aujourd'hui 100 ans, mais il est parti à 39 ans, terrassé par une crise cardiaque. Homme surdoué, hyperactif et inclassable, il a vécu 10 existences en une, multipliant les activités créatives. Le jazz a été sa première passion, qu'il a pratiquée intensément, jusqu'au moment où les médecins lui ont déconseillé, puis carrément interdit, de jouer de la trompette. Il a alors développé son rôle de critique musical, notamment dans la revue Jazz Hot. Après avoir animé durant un an le célèbre club du Tabou, rue Dauphine, Boris Vian a contribué à l'ouverture, en juin 48, du club Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Benoît. Il en a fait un temple du jazz sans concession, selon ses propres dires, et l'a animé jusqu'à la fin de l'année 49, en y conviant les plus grands jazzmen de passage à Paris. En 1950, Boris signe quelques textes de chansons. Trois sont mis en musique par le pianiste Jacques Dieval, trois autres par le tromboniste et arrangeur Jean Gruyère, dont une sorte d'hymne au Club Saint-Germain que Vian vient de quitter. Un autre texte mis en musique par Max Gendly, On fait des rêves, sera lui intégré en 1989 au spectacle de Magali Noël, Regard sur Boris Vian.
On croit qu'on aime toute la vie.
Après avoir été le premier à enregistrer commercialement début 1950 une chanson de Boris Vian, celle Bebop, Henri Salvador récidive au mois de novembre avec La Vie Grise, toujours signée Vian et Jacques Dieval. Mais à peine sorti, son disque sera interdit de diffusion par le très prude comité d'écoute de la Radio Nationale pour apologie de l'alcool. En parallèle de ses pièces de théâtre, qui ne sont pas représentées, et de ses quelques textes de chansons qui ne trouvent pas d'interprète, Boris commence à écrire de petits spectacles, sketchs et revues en tout genre, qui vont prendre durant la première moitié des années 50 une place importante dans sa production. En l'espace de quelques années, il va travailler pour différents cabarets de la rive gauche et de la rive droite, avec des spectacles montés notamment par les compagnies d'Yves Robert et de Michel Deré. Les publications postérieures de ces textes font rarement mention de la partie musicale qui cependant existait parfois. Comme nous allons le voir au cours de cette émission consacrée au temps des cabarets, c'est en effet pour ces spectacles que Vian a écrit certaines de ses premières chansons. Le 6 janvier 1951, il passe son examen d'admission à la SACEM en tant qu'auteur. Peu après, il écrit pour La Rose Rouge un spectacle d'anticipation, Ça va, ça vient, comprenant notamment une ébauche de la chanson La Java Martienne. Mais le célèbre cabaret de la rue de Rennes refuse la pièce. La version définitive de cette Java Martienne, mise en musique par Alain Goraguer, sera enregistrée en juin 1956 par les Trois Horaces.
En descendant de la fusée, je t'ai trouvé presque aussitôt, et je suis resté médusé, tu m'avais pris comme au lasso. Je t'ai suivi sur la pelouse, tes tentacules autour du cou, et avec tes petites ventouses, tu m'as fait des baisers partout. Les musiciens soufflaient sans trêve dans leurs bazooks et leurs strapons, et cette musique de rêve me perforait jusqu'au trognon. J'évoquais des orgies superbes, des bacchanales dans les canaux, et pendant qu'on s'aimait sur l'herbe, je fredonnais ces quelques mots. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes trois grands yeux.
Ça marche toujours,
ça marche comme ça.
Oui, ça tourne à tour de bras. La Java d'amour, martial Java, que j'ai dansé dans tes bras.
C'est la Java martienne, la Java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux.
Si la Rose Rouge n'a pas voulu de son spectacle « Ça va, ça vient », Vian a réussi en revanche à séduire la direction du cabaret Chez Gilles, avenue de l'Opéra, qui inclut dans son programme de rentrée 1951 un sketch de lui intitulé « Adam et Ève » ou « Le troisième sexe », dont il a aussi composé la musique. Boris répond aux questions de Pierre Lerouzic, venu faire un reportage lors de la soirée inaugurale de ce programme en septembre 1951.
Il était indispensable de s'adresser à Boris Vian, le spécialiste des bonnes manières, pour qu'il nous explique exactement ce qu'allait être son sketch et ce qu'était même actuellement son sketch. Comment pouvez-vous l'expliquer et le justifier?
Mon sketch est très intéressant du point de vue des bonnes manières, particulièrement, justement.
Je suis persuadé.
Parce que ça se passe à une époque où il n'y avait pas de bonnes manières du tout.
Ah.
C'est par conséquent une excellente occasion de commencer à étudier les bonnes manières sur le vif.
Et comment commencez-vous?
Ben on commence avec Dieu et les anges, et on continue avec Adam et Ève. Vous imaginez ensuite ce qui peut se passer, c'est une histoire assez connue. Mais enfin, je pense avoir apporté quelques développements nouveaux sur la question.
Mais alors, est-ce que le troisième sexe est un développement de la question?
Ben, le troisième sexe est justement une des caractéristiques du serpent. Je ne peux pas vous en dire plus long, ce serait trahir absolument le secret de cette œuvre maîtresse qui comptera jamais dans les annales de la littérature française. Et je suis obligé de m'arrêter par conséquent.
Si je croyais en Dieu, je serais heureux de rêver au jour où je verrai dans le ciel un ange en robe blanche, par un clair dimanche, descendant vers moi dans un chariot doré. Dans un bruit d'ailes et de soie, loin de toute la terre, très haut je verrai se lever devant moi la brûlante lumière, le bonheur éternel, si je croyais en Dieu. Mais j'ai vu trop de haine, tant et tant de peine, et je sais, mon frère, qu'il te faudra marcher seul, en essayant toujours de sauver l'amour qui te lie aux hommes de la terre oubliée.
Sermonette, un texte de Vian mis en musique en 1958 par Philippe Gérard et gravé par la suite par Serge Reggiani. En 1952, Boris signe plusieurs chansons sur des musiques d'Eddie Barclay et commence à composer lui-même des mélodies que ses amis musiciens comme Guy Lognon et Claude Laurence l'aident à harmoniser. Mais la grande affaire de l'année 52 est le spectacle Cinéma Sacre ou les 50 ans du 7e art, dont Vian a signé scénario et dialogue sur une idée des cinéastes Pierre Caste et Jean-Pierre Vivet. Il est donné le 8 avril au Théâtre de la Rose Rouge par la compagnie d'Yves Robert, Rosy Vart, Edmond Tamise, Jean-Marie Amato, Jacques Hilling et Guy Pierrot. 10 sketchs, inspirés par les exercices de style de l'ami Raymond Queneau, enchaînent une série de gags du meilleur cru, malicieusement empruntés aux metteurs en scène célèbres comme Marcel Carné, Cécile B. DeMille, Maurice Cloche, Vittorio De Sica, jusqu'à Frankenstein, Charlot et les films de propagande à usage des Marines américains. L'action se passe au Havre, par temps de pluie, dans un bar à règlement de compte.
Quel temps!
Hey, ça fait 8 semaines que ça dure. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui, monsieur Beauchet?
La même chose que d'habitude.
Un vermouth cassis.
Qui c'est celle-là?
Ce pas. Elle arrivait tout à l'heure. Elle a pris un viandox. Prennent toujours des viandox ou des œufs durs qui font un petit bruit terrible sur le comptoir.
Elle est seule?
Non, elle est avec un type, un grand plombier zingueur. Vient de partir sans payer les consommations.
Elle est intéressante, cette petite.
Oh non, un viandoc, c'est pas une fille intéressante.
Vous permettez, mademoiselle.
Si vous voulez.
Il me semble pas vous avoir vu en ville. Vous êtes d'ici?
Non, je viens de là-bas.
Est-ce que je peux vous offrir une consommation?
Si vous voulez.
Patron!
Hey.
Que prendrez-vous?
Un œuf dur.
Oh!
Énorme farce dénonçant la convention qui s'empare à cette époque du cinéma, Cinéma Sacre obtient un vif succès auprès des critiques et du public et totalisera 400 représentations. Boris Vian connaît donc enfin un succès remarquable après ses nombreux échecs dans le domaine du théâtre et de la littérature. À l'initiative du directeur artistique Jacques Canetti, cette pièce, parée de neuf par le décorateur Jean-Denis Malclès, sera reprise en mai 54 au théâtre des Trois Baudets, avec Philippe Clay reprenant les rôles créés par Yves Robert. Entre-temps, Boris Vian, qui accepte beaucoup de demandes, a écrit d'autres sketchs, notamment pour Georges Vitali, dont la troupe réunissant Jacques Fabry, Jacqueline Maillan, Pierre Mondy, se produit habituellement au théâtre de la Huchette, qu'il a fondé en 1947 sur la rive gauche. Fin 52, Vitali se hasarde sur la rive droite, au nightclub des Champs-Élysées, avec un sketch de Boris Vian sur l'évolution de Paris, Fluctuat nec ou Paris-Vari, sur une musique de Jean Vienner. Mais il ne sera joué que quelques soirs, car le directeur du lieu le trouve trop subtil pour sa clientèle, qui vient surtout se détendre et boire du champagne.
Dans la rue traversière, il y avait des roses et tout un tas d'autres choses que personne ne voyait. Dans la rue traversière, il y avait un vieux bébé pleurait à la fenêtre parce qu'il allait tomber. Dans la rue traversière, il y avait une grand-maman qui montrait son derrière pour 235 francs.
Arlette Tefany a enregistré en 1971 cette chanson écrite et composée en 52 par Boris Vian et harmonisée par un certain Claude Laurence, alias le violoniste et critique de jazz André Auder. La vie privée de Boris connaît à cette époque de grands changements. En juin 1950, il a fait la connaissance d'Ursula Kübler, une jeune danseuse des ballets de Roland Petit, originaire de Zurich, qui a fini par entrer dans sa vie. Séparé de Michel en 51, Boris achève dans la douleur la rédaction de son dernier roman, L'Arrache-cœur, qui sera publié 2 ans plus tard, toujours sans succès, et cela le fera renoncer à la littérature. Le divorce est prononcé en janvier 53, laissant à Michel la garde de leurs 2 enfants. Ursula et Boris s'installent alors au 6 bis Cité Véron, où ils partagent avec Jacques et Janine Prévert leur terrasse donnant sur les ailes du Moulin Rouge. Une amitié se développe alors entre les deux poètes. Boris Vian finira par accepter d'épouser Ursula en février 54. Sous son influence, il s'essaie à l'écriture d'arguments de ballet et de comédies musicales qui resteront le plus souvent dans ses tiroirs. Désabusé par son manque de succès dans le monde littéraire, Boris décide de consacrer beaucoup plus de temps à la chanson. Au cours de la seule année 54, il en signera plus de 60 contre une cinquantaine au cours des 10 années précédentes. Il travaille notamment avec Claude Laurence pour Le Temps passe et J'aime pas, qui seront enregistrés 10 ans plus tard par Magali Noël pour les disques Canetti.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
J'aurais pu faire des ménages, j'aurais pu vendre des fleurs, j'aurais fermé mon corsage, mis un cadenas à mon cœur. J'aurais eu une vie facile, des enfants et du respect, une jeune bonne, un Jules en ville. Mais il y a un mais, j'aime pas les robes à scandale, ni les diamants, j'aime pas les promenades à cheval, j'aime pas l'argent, les bagnoles qui coûtent 3 briques, les parties de chasse en Afrique, les petits dîners sans couvert, à quoi ça sert? J'aime pas les cuisses de grenouille, j'aime pas le whisky, j'aime pas les plages où ça grouille, j'aime pas le ski. Qui fasse beau, qui tombe des lances, chaud ou froid, moi je m'en balance, parce que je vous l'avoue en somme, j'aime que les hommes.
À l'automne 1953, Boris Vian a fait la connaissance du pianiste américain Harold Berg et l'a reçu Cité Véron pour travailler à quelques projets de chansons qui ont besoin d'être harmonisés. C'est ainsi que naît au début de l'année 54 le fameux Déserteur, sur lequel nous reviendrons dans la prochaine émission, mais aussi Je ne peux pas m'empêcher et Mon Paris à moi. Un virage est franchi au cours de cette année 54 lorsque Boris Vian a l'occasion d'écrire pour une chanteuse à la fois populaire et distinguée, à savoir Renée Lebas, qui lui a été présentée par le directeur artistique passionné de jazz, Philippe Veil. Elle participera en juin 79 sur France Culture à une sorte de table ronde hommage à Boris Vian avec également Michel Legrand.
Renée Lebas n'a pas seulement été la première à chanter du Boris Vian, mais elle a été la première à chanter plein d'auteurs, dont je fais partie. Et j'aimerais beaucoup, Renée, que vous nous disiez quelles étaient les chansons de Boris que vous chantiez. C'est une commande à Boris ou...
Eh bien oui, en réalité c'est une commande à Boris. Je connaissais Boris depuis fort longtemps, comme vous le savez Michel, et je ne pensais vraiment pas qu'un jour il pourrait faire des chansons pour moi. Je lui dis, voilà Boris, je vais donner un récital à Pleyel, est-ce que vous êtes d'accord de me faire des chansons? Il me regarde de son air froid. Et je crois maintenant comprendre pourquoi il m'a regardé avec cet air froid. Il pensait que je n'étais pas pataphysicienne. Hein, je pense que c'est ça. Et il se dit, tiens, pourquoi Renée Lebas, qui a un répertoire populaire, simple, chanson d'amour, etc., veut chanter du Boris Vian? Et il m'a dit, pourquoi pas? Et c'est ainsi qu'il m'a apporté les deux premières chansons, Sans blague, Moi, mon pari. Et puis petit à petit, Suicide Valse et les autres, et les autres, et les autres. Et il a été tout à fait surpris que je choisisse ces chansons. Alors, pourquoi j'ai demandé des chansons à Boris? D'abord, parce que je savais qu'il ferait de très bonnes chansons et des chansons insolites, et que j'avais besoin, pour la préparation de ce récital à Pleyel, j'avais besoin de sortir de moi-même, c'est-à-dire de sortir du répertoire habituel, et j'avais envie de faire quelque chose qui soit totalement insolite. Et je crois que je n'ai pas eu tort pour moi, et pour les quelques amis qui m'ont compris, mais j'ai eu tort pour le public, qui n'a absolument pas compris ce que je souhaitais faire. Mais voilà la raison profonde, j'avais vraiment envie, et j'ai toujours eu envie d'ailleurs, au même titre que j'ai chanté les premières chansons de Michel, de Léo Ferré, j'ai chanté beaucoup d'auteurs qui sont à la voix maintenant, j'ai toujours eu envie de sortir, disons, je ne dis pas des sentiers battus, mais de mon répertoire et du style que j'avais à l'époque.
Voici une nouvelle chanson dont les paroles et la musique sont de Boris Vian, Sophie. Sophie, depuis hier matin, ton père me retient de te donner des claques. Sophie, dis-moi qui est ce Jacques, avec ses airs valaques et sa canorotin. Sophie, tu ne te tiens pas bien. Si ce monsieur revient, remonte dans ta chambre. Sophie, ne dis pas qu'il te plaît. Ça ne se fait jamais, car ce n'est pas discret. Tes parents savent mieux que toi l'homme qui pourra partager ta vie. Tes parents qui t'aiment bien, ma Sophie, car ton bonheur leur tient à cœur autant qu'à toi. Sophie, tu ne te tiens pas bien. Ça n'est pas très malin lorsque l'on a ton âge. Sophie, jamais un homme sage n'épousera quelqu'un.
Ce récital de Renée Lebas à la salle Pleyel a lieu le 8 octobre 1954. Vian lui a finalement offert 7 chansons à travers lesquelles il a essayé de reconstituer les différentes facettes de ses possibilités d'expression. Accompagnée par Jimmy Walter et son ensemble, elle en enregistre 4 au mois de décembre chez Barclay qui seront regroupées sur un disque Super 45 Tours édité début 55, lequel se vendra modérément. Elle est tout de même la première chanteuse à sortir un disque dont les 4 titres sont signés Boris Vian, Ne te retourne pas, Au revoir mon enfance, Moi mon pari et le blues Sans blague.
Sans blague, est-ce que tu crois vraiment qu'on va s'aimer tout le temps? Ne mens pas. Sans blague, c'est pas dans des romans que t'as trouvé tout ça. Dis-le-moi. Répète encore une fois, comment cela sera quand on vivra ensemble? semble pâle. À quoi cela ressemble? Deux amoureux d'un soir, au bout de 6 mois, sans blague. Si jamais ça ne finit, emmène-moi dans ma vie avec toi.
Et vous avez chanté, accompagné par quelqu'un qui est devenu très important dans la vie et dans les chansons de Boris Vian.
Oui, Jimmy Walter. Oui, effectivement, et c'est Jimmy m'accompagnait à l'époque, et je l'ai présenté, enfin j'ai fait la jonction, si vous voulez, entre Boris et Jimmy. Ils se sont parfaitement compris, et ils ont vraiment énormément travaillé ensemble. Et si vous avez remarqué, dans les arrangements des chansons que j'ai interprétées de Boris Vian, il y a vraiment une part énorme de travail de Jimmy. D'ailleurs, Jacques me le faisait remarquer tout à l'heure. Et il était tellement passionné, Jimmy, de ses chansons, de cette musique. C'était extraordinaire. Aussi passionné que Michel, d'ailleurs.
Ce travail pour René Lebas ouvre des horizons à Boris Vian, qui songe de plus en plus, avec l'aide de Jimmy Walter, à écrire pour des vedettes. Cinéphile impénitent, il va par exemple craqué pour l'affriolante Suzy Delair, qui en témoignera dans la grande série d'émissions produite en 1979 pour France Culture par Noël Simsolo et Dominique Rabourdin sur l'œuvre de Boris Vian.
Le jour où il m'a téléphoné en me demandant un rendez-vous, j'étais tout à fait ahurie. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut ? Et puis j'ai été subjuguée. D'ailleurs très très timide, très un grand môme. Il est venu me proposer des chansons. D'abord, il m'a dit, oh, j'aimerais bien sortir avec vous, j'aimerais bien. Et puis, après, il m'a dit, oh, venez donc dîner à la maison. Alors, il m'a fait un pot-au-feu merveilleux. Il m'a dit, voyez, je lave les légumes comme ça, avec beaucoup de soin. Il attachait ses petits poireaux. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, hein. Extraordinaire. J'étais allée derrière le Moulin Rouge, vous savez, dans cette maison très inouïe. Et puis après, il m'a proposé des chansons.
Oui, là. Quand on veut me voir, on vient chez moi. Qu'on vienne ou pas, je joue le sol. Je suis sur mon page et je ne bouge pas. Oui, là, j'achèterai plus jamais de chaussures. Comme ça, je serais pas tenté de marcher. Ça coûte moins cher et c'est plus sûr. Oui, là. Et quand ma mère me traite de veau, je lui en veux pas, ça me fatiguerait. Compte pas sur moi pour le boulot. Relax.
Cette fin d'année 1954 est particulièrement riche pour Boris Vian, qui compose en un temps record les 19 chansons d'un spectacle grinçant, La Bande à Bono, monté par la compagnie de Michel Deray. Il a été écrit par Henri-François Rey, qui l'évoquera en 1979, toujours sur France Culture, en compagnie de la comédienne Martine Sarcey.
Il faut revenir à Michel Deray. Enfin, c'est une idée de Michel. Il a voulu faire moi je lui ai vaguement proposé de parler d'anarchiste, de faire une pièce sur la bande à Bono, qui me paraissait quelque chose d'assez singulier pour illustrer ce qu'était l'anarchisme de 1911, enfin de début du 19e siècle. Enfin, on a voulu monter ça comme une bande dessinée, c'était pas une œuvre métaphysique. J'ai pensé à Boris Vian, parce que lui avait ce sens extraordinaire d'être à la fois près, loin des choses, de travailler très vite, ce qui est très important pour moi, enfin, qui travaille vite. Et puis, Boris a fait ses chansons, et je trouvais ça merveilleux, parce qu'il a fait ça très vite. C'était plein de talent, plein d'humour, plein de drôlerie, plein de grossièreté, plein de désinvolture. En une semaine, toutes les chansons étaient faites, répétées.
Avec Michel aussi, il fallait que ça aille très vite.
Oui, c'est pour ça que j'adorais Michel et qu'il fallait que ça aille vite.
Pour moi, c'était un gros travail parce que je ne suis pas chanteuse et que tous les comédiens chez Michel Deray devaient chanter, qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas. Alors, on s'y était tous mis et puis finalement, on s'était pas mal débrouillé. Hein.
Papa chéri, qu'il me plaît, qu'il me plaît, qu'il me plaît, ce terrible anarchiste. Ah, papa chéri, je voudrais l'épouser sans tarder. chérie, c'est-il vrai ce que disent les journalistes, qu'ils coupent en tranches les petits enfants pour faire du pâté d'alouette, qu'ils tuent les riches et les sergents pour venger les honnêtes gens.
Martine Sarcey, qui participa le 17 décembre 1954 à la création de la bande à Bonneau au théâtre du Quartier Latin, une petite salle de la rue Champollion dirigée par Michel Deray, a bien voulu, 25 ans plus tard, sur France Culture, rechanter l'une des chansons du spectacle, accompagnée au piano par Georges Delerue. Quelques jours avant la première, l'auteur Henri-François Rey et Boris Vian étaient interviewés par Paul-Louis Mignon pour l'émission « Rendez-vous à 5 heures ».
Comment la musique intervient-elle dans votre spectacle quand je vois à l'affiche musique de Boris Vian?
Eh bien ça, Boris Vian, vous l'expliquez, je peux dire qu'elle intervient surtout à titre, si vous voulez, de commentaire. Je veux dire que les acteurs ne chantent pas en situation. Mais Boris va l'expliquer.
Ben, si vous voulez, la musique intervient au titre de représentation de l'ignorance de la société qui a vécu, au fond, cette aventure de Bonneau. La société, ne sachant pas du tout ce qui se passait, et évidemment, il se reflète, je pense, dans la musique, une sorte d'innocence vis-à-vis de tous ces événements qui fait un contraste avec la pièce de Henri-François Rey, dont le ton est souvent très dur et, je crois, assez vrai. J'ai fait la musique, il y a deux chansons dont mon camarade Jimmy Walter a fait la musique, en particulier le tango des Joyeux Bouchers et la Java des Chaussettes à Clous. Et pour toutes les autres, j'ai fait une musique alors qui est beaucoup plus adaptée, qui colle, si vous voulez, plus à l'action.
Et ces musiques s'inspirent des musiques même contemporaines de la bande à Bonneau?
Un peu, si vous voulez, mais pas tellement. Par exemple, c'est surtout une musique composée en vue d'établir une sorte d'atmosphère. J'ai fait, par exemple, un blues là-dedans, et le blues était tout de même tout à fait dans l'enfance à cette époque-là. Il y a un tango, évidemment, 1911, c'est le grand début du tango en France. Alors ça correspond, si vous voulez, à l'esprit de l'époque aussi. Et puis enfin, quelques petites marches militaires, parce qu'il y a tout de même eu pas mal de militaires mêlés à l'action finale.
Cette pièce au ton cynique et burlesque suscite des réactions contrastées et disparaît de l'affiche au bout de quelques représentations. Le spectacle n'a donné lieu à aucun enregistrement et les musiques sont quasiment perdues. Seules trois chansons ont survécu, enregistrées par la suite par différents interprètes. L'Anguille par Magali Noël et Béatrice Moulin, la Java des Chaussettes à Clous par Jacques Higelin et surtout les Joyeux Bouchers par Boris Vian lui-même en 1955.
C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hal puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme hack. Faut que ça saigne bien fort.
La bande à Bonneau sera remontée en 1971 au Théâtre de l'Ouest parisien à Boulogne-Billancourt par Pierre Vielescaz. En 1975, Jacques Canetti commandera de nouvelles musiques à Louis Bessière pour préparer un album 33 tours de 12 chansons extraites de la bande à Bonneau, avec notamment Yves Robert, Jacques Higelin, Magali Noël, Lucienne Vernet et Judith Magre. Mais en cette fin d'année 1954, Boris Vian franchit une étape déterminante de son parcours lorsqu'il passe des auditions pour se produire lui-même sur des scènes de cabaret parisien avec ses propres œuvres. Ses prestations difficiles et courageuses seront néanmoins très marquantes pour l'histoire de la chanson, comme nous le verrons dans la prochaine émission de cette série que vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster sur le site francemusique.fr. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Régis Nicolas à la technique, Massimo Bellini à la réalisation, Gwen Michel et Marie Chauveau pour les archives de l'INA.
réécouter sur francemusique.fr.